Il est 8h30, à Paris 6h30, en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Vincent Dublange. Vincent, comment analyser la grâce accordée vendredi à Moussa Dadis Camara?
À la fois un geste de réconciliation nationale, un geste politique aussi en direction de la Guinée forestière. C'est ce que nous dira un analyste, même si forcément du point de vue des victimes du 28 septembre 2009, la mesure reste incompréhensible. Des militaires graciés au Faso, ils avaient tenté de renverser le pouvoir de l'époque en 2015. On va décrypter aussi cette taxe de 0,5% sur les importations. L'Alliance des États du Sahel entend ainsi perpétuer un mode de financement qui existait déjà du temps de la CEDEAO. Au Sénégal, les lutteurs vont pouvoir, à partir de demain, à nouveau tenter de faire mordre la poussière à leurs adversaires. Et puis notre dossier du jour, dans 10 minutes, qui donc prend les décisions dans votre couple? En RDC, les femmes ont davantage voix au chapitre, dit une étude. Elle est contestée par les féministes. Et l'on débute donc en Guinée. La grâce accordée vendredi à Moussa Dadis Camara par le général Mamadi Doumbouya a été accueillie ces derniers jours avec joie chez ses soutiens, avec consternation du côté de l'opposition en Guinée, d'une partie de la société civile, des collectifs de victimes également. L'ancien dirigeant putschiste a été condamné l'an dernier pour crimes contre l'humanité lors du procès du massacre et des viols du 28 septembre 2009. Cette grâce de Moussa Dadis survient deux jours après l'annonce par le chef de la junte guinéenne de la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du massacre. Comment analyser une telle décision? Pour le politologue Kabiné Fofana, directeur de l'association guinéenne de sciences politiques, ce geste peut s'inscrire dans une dynamique de réconciliation nationale, même s'il n'est pas dénué d'arrière-pensée politique.
Ça peut bien se comprendre que les victimes y voient un goût inachevé dans la démarche. Quand on sait déjà que le capitaine Moussa Dadis Camara a été condamné pour 20 ans, il en a fait que 8 mois, cela peut bien se comprendre. Après, est-ce que cela peut avoir une répercussion politique? Oui, bien évidemment, parce que le capitaine Moussa Dadis Camara, devrais-je le dire, reste encore un personnage important, ou sinon le plus important d'un point de vue politique au niveau de la Guinée forestière.
Donc on peut y voir un calcul politique derrière cela?
Oui, possiblement, ou même si le calcul n'est pas foncièrement politique, mais il peut avoir des bénéfices politiques. Et ce bénéfice politique-là, c'est le fait quand même de contenter aujourd'hui tous ceux qui se reconnaissent au capitaine Dadis Camara. On a vu les liesses populaires que cela a augré. Il va sans dire que ceci va changer la dynamique ou possiblement la façon de voir le colonel Mamadi en Guinée forestière.
Propos recueillis par Pierre Fersion.
Au Burkina Faso, une grâce présidentielle également, celle d'une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans le coup d'État manqué du 16 septembre 2015.
Oui, il s'agit en fait de l'application d'une loi adoptée fin décembre par les membres de l'Assemblée législative de transition. Le capitaine Ibrahim Traoré a signé un décret pour la libération de plusieurs officiers, sous-officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, le RSP, la garde prétorienne de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, qui avait à l'époque tenté de renverser le pouvoir de la transition dirigée par Michel Kafando, Xavier Besson.
Oui, en fait, le décret date du 24 mars, donc de la semaine dernière, et on peut y lire que le capitaine Ibrahim Traoré accorde une grâce amnistiante à 21 membres des forces armées burkinabées, 21 personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation ou d'une poursuite judiciaire pour des faits commis en septembre 2015. Parmi les bénéficiaires, 6 officiers, dont le capitaine Houssène Zoumbri, officier d'intervention de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, le lieutenant Relwinde Compaoré, décoré 4 fois pour ses différentes missions au Mali notamment, ou encore le lieutenant Gorgo Ghislain Abdoul Kadri Dianda. Alors grâce à cette décision, ces 21 militaires vont reprendre leur place au sein des forces armées burkinabées. Mais, précise le décret, cette réintégration ne peut jamais donner lieu à la reconstitution de la carrière ou à des indemnités. Cette décision, vous l'avez dit, elle fait suite au projet de loi voté à la fin de l'année dernière par le Parlement de la transition à Ouagadougou pour une 60aine de personnes condamnées pour leur participation à cette tentative de coup d'État, un projet de loi qui leur offrait la possibilité de formuler une demande de grâce amnistiante.
Les précisions RFI matin de Xavier Besson.
Les pays de l'Alliance des États du Sahel vont taxer les importations.
Une taxe, Marion, de 0,5%, baptisée prélèvement confédéral AES. elle ne devrait pas concerner les pays voisins, hein, les importations des pays voisins membres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La question se pose en revanche pour le Ghana, le Nigeria. En fait, il s'agit pas d'une création de taxe, mais du transfert d'une taxe qui existait déjà aux frontières extérieures de la CEDEAO. CEDEAO que les États de l'ES ont quitté, pour rappel, en janvier. Une taxe, Claire Fage, qui est destinée à financer les activités de la Confédération.
Le document est signé par Assimi Goïta, le chef de la junte malienne et président de l'Alliance des États du Sahel. Il institue un prélèvement confédéral de 0,5% sur les marchandises importées des pays tiers vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette taxe ne s'appliquera pas aux marchandises des pays de l'Alliance ou en transit, ni aux marchandises d'un État membre d'une union douanière avec les pays de l'AES, précise le texte. En théorie, ne seront donc pas taxés les produits des autres pays de l'UMOA, dont les pays de l'AES font toujours partie et avec lesquels ils ont toujours une liberté de circulation des biens et des personnes, malgré leur retrait de la CEDEAO. Il s'agira plutôt du transfert d'un prélèvement douanier du même taux déjà existant aux frontières extérieures de la CEDEAO que les pays de l'AES conserveront pour le fonctionnement de l'Alliance au lieu de le restituer à l'organisation régionale ouest-africaine. Le ministre malien de l'économie a tenu à rassurer, pour les usagers maliens, ça n'impacte pas du tout le coût des denrées qui sont importées. Il n'est pas précisé si les produits du Ghana et du Nigeria, non membres de l'UMOA, subiront la taxe.
Claire Fage du service économie de Radio France Internationale. Au Nigeria maintenant, le lynchage de 16 voyageurs à Oussa dans le sud-est du pays provoque une onde de choc. Les victimes voyageaient depuis Port Harcourt au sud du Nigeria, en direction de la ville de Kano, tout au nord. Elles allaient y célébrer l'Aïd quand elles ont été interceptées par un groupe d'autodéfense locale dans l'état d'Edo. La présence de fusils artisanaux utilisés pour la chasse a soulevé les soupçons des miliciens qui ont pris ces personnes pour des kidnappeurs. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre les victimes encerclées par des jeunes aspergés d'essence et incendié. Le président Bola Tinubu estime qu'il s'agit d'un épisode particulièrement choquant. Forcément, il demande à ce qu'une enquête soit diligentée pour retrouver les coupables.
C'est une coupure totale de la ligne entre Kigali et Bruxelles.
Oui, après la rupture des relations diplomatiques, on en a parlé sur RFI avec la Belgique. Le Rwanda interdit désormais toute forme de coopération, de partenariat ou même de simple financement venant des autorités belges et de ses institutions. Et ce, pour toutes les ONG, les organisations religieuses, les fondations qui opèrent au pays des mille collines. Mesure à effet immédiat, avec le risque de perte de licence forcément pour les organisations qui ne respecteraient pas cette nouvelle directive. Des organisations qui craignent l'impact sur leurs opérations, Lucie Mouillot.
On ne s'attendait pas à ce que la rupture diplomatique touche la société civile, regrette le responsable d'une organisation partenaire de la coopération belge. La majorité de ses activités sont désormais suspendues dans l'attente de nouveaux fonds pour les reprendre. Au Rwanda, l'agence de développement belge Enabel prévoyait jusqu'en 2029 un budget de 95 millions d'euros dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'urbanisation et plus de 17 millions dans des projets sur la protection sociale. Pour certaines ONG, déjà impacté par la suspension mondiale des aides américaines, l'incertitude plane sur la continuité des programmes. Il est encore trop tôt pour parler des conséquences, affirme le directeur d'une organisation à la recherche de solutions auprès d'autres partenaires, mais le contexte tendu des sanctions est inquiétant, poursuit-il, craignant d'autres mesures similaires avec d'autres pays. Commentant la rupture des relations diplomatiques, le ministre rwandais des Finances, Youssouf Mourangwa, a la semaine dernière affirmé ne pas être inquiet et que le vide laissé dans les secteurs critiques sera couvert par le gouvernement. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Au Sénégal, les rois des arènes vont pouvoir reprendre le combat.
Oui, les autorités vont à nouveau assurer la sécurité des affrontements de lutte sénégalaise. Et ce, à partir de demain, mardi, cette couverture sécuritaire est suspendu depuis un mois et demi maintenant au Sénégal. Un supporter était décédé lors de violences en marge d'un combat mi-février. Un moratoire avait donc été mis en place, ce qui suscitait de fortes inquiétudes chez les acteurs de ce sport national emblématique, qui ont donc trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement et son ministre de l'Intérieur, Juliette Dubois.
La décision intervient après des concertations entre les acteurs du monde de la lutte, le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur. Une batterie de mesures a été mise en place pour éviter les violences en marge des combats, comme une jauge de vente des billets à 20 000 au lieu de 22 000 pour éviter les bousculades, ou une durée limitée à 20 minutes par combat. Et puis les combats devront se dérouler plus tôt, entre 16h et 18h30, comme l'explique Malik Ngom, président du Comité national de gestion de la lutte.
Il est plus facile aux forces de l'ordre de gérer la sécurité en plein jour que quand il fait nuit. Le grand combat, si on le siffle au plus tard à 18h30, si le combat arrive à terme au maximum 19h, on doit quitter l'arène. Là, au moins, ça va leur permettre quand même de canaliser les foules.
Autre mesure, les lutteurs devront respecter des itinéraires fixés par la police pour se rendre aux arènes. Objectif, éviter les débordements et faciliter l'encadrement de leurs déplacements ainsi que ceux des fans. Pour les nombreux promoteurs de ce sport très populaire au Sénégal, la reprise des combats est un soulagement.
Il y avait pas mal de promoteurs qui avaient mis beaucoup d'argent. Certains peut-être ont fait des prêts à la banque. Ils ont donné des avances aux lutteurs. Ils ont réservé des dates. Ils ont signé des contrats avec des sponsors. Sans la tenue de ces gars-là, ils n'allaient pas quand même honorer leurs engagements.
Depuis plusieurs années, les habitants du quartier de l'arène nationale de Pékin dénoncent des agressions, affrontements et vols après chaque combat. Ils espèrent désormais un retour au calme. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et notre dossier pour terminer. En RDC, près de la moitié des femmes mariées participent à la prise des décisions au sein de leur ménage.
En tout cas, c'est un chiffre qui fait polémique. Il est issu, Marion, d'une enquête démographique et de santé publié par le très sérieux Institut National des Statistiques de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que ces données sont fiables? Est-ce qu'elles correspondent à la réalité? La question fait débat. Les féministes reconnaissent des avancées ces dernières années dans la lutte pour les droits des femmes, mais selon elles, ces chiffres élevés sont trop élevés par rapport à leur réalité, ce qu'elles vivent au quotidien. Exemple à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, Denise Maéo.
Selon l'Institut national des statistiques INS, 48% des femmes prennent part à la prise d'au moins trois types de décisions dans leur foyer. Celles sur les visites familiales, celles sur les achats de la maison, ainsi que celles sur leur santé. Mais pour Myriam, une employée dans un établissement public, ce n'est pas le cas. L'homme prend toutes les décisions.
Même si vous entendez, c'est quelque chose donc de vastement s'imposer. Après, c'est lui qui va faire ce qu'il veut.
Âgée d'une quarantaine d'années, Charlotte, elle, est encore ancrée dans la coutume. L'homme a tous les droits, dit-elle.
Mon papa, on a quelques décisions à revoir, capacité de se soigner.
Le papa décide seul. Il est à la tête de la famille. Moi, je participe à la discussion lorsqu'il s'agit de la restauration ou encore de petits déplacements des enfants.
Maître Sylvine Colomoni, avocate au barreau de Lubumbashi, juge elle aussi les chiffres de l'INS supérieurs à la réalité, car la plupart des femmes mariées vivent encore, selon elles, sous l'emprise de leur époux.
Sur 10 femmes que j'ai rencontrées, toutes les femmes, elles ne se sentent pas en fait considérées comme partenaires à la prise de décision au sein du ménage.
Toutefois, l'INS indique que les données varient d'une province à une autre.
Et la lutte pour les droits des femmes en République démocratique du Congo connaît des avancées ces dernières années, ces dernières décennies. Même les défis à relever toutefois sont encore nombreux. C'est ce que nous dit ce matin Bernadette Capend. Elle préside le réseau des femmes pour le développement.
Il y a des avancées grâce au travail de sensibilisation et d'encadrement de ménage et surtout les nouveaux codes de la famille où beaucoup d'expertises des femmes ont été mises en contribution pour éradiquer toutes les discriminations qui existaient dans l'ancien code. Maintenant, le nouveau code de la famille accorde beaucoup d'importance à la femme. Mais le chemin est encore long à cause des obstacles liés au genre. Beaucoup de femmes ne savent même pas définir leurs responsabilités dans la gestion de leur ménage. Nous savons que les us et coutumes créent un autre style de femme. Quand on est éduqué pour se soumettre dans le ménage, la participation devient difficile.
Un dossier signé Denise Maillot que vous retrouverez bien sûr à tout moment sur notre site RFI.fr. À la une du site en ce moment, au Soudan, les FSR du général Hemeti qui concèdent la perte de Khartoum.
Merci Vincent Dublange, à tout à l'heure.